Storie Nostrum. Un entretien avec Vincent Mespoulet et Marie-Pierre Dos. Storia Nostrum, c'est toute une histoire, comme vous allez voir et entendre. Surtout, c'est un concept, en quelque sorte. C'est l'idée de capter des histoires à travers le passé de la Méditerranée en replongeant 2500 ans en arrière, c'est-à-dire avant l'unification romaine. Et donc, c'est Vincent Mespoulet et Marie-Pierre Dos qui sont les chevilles ouvrières d'un projet qui débouche sur des podcasts, qui ne fait que commencer. Et en l'occurrence, c'est en Albanie qu'on se trouve pour faire cet entretien au site archéologique Apollonia, en ex-Illyrie, et c'est à leur invitation. Ce fut un grand plaisir de s'y trouver pendant une semaine en septembre pour aller d'un site à l'autre. Au moment où on fait cet entretien, on est dans ce qu'on appelle la maison des fouilles. On y reviendra, mais on va les retrouver tout de suite pour nous expliquer en quoi ça consiste, Storia Nostrum.
Oui, alors Storia Nostrum, en fait, c'est une formule qu'avait trouvé l'écrivain François Beaune, qui est le fondateur de l'association qui porte ce projet Storia Nostrum. L'association, c'est Histoire vraie de Méditerranée. Et Histoire vraie de Méditerranée, c'était jusque-là concentré sur les histoires ordinaires, les histoires vraies des habitants du bassin méditerranéen de nos contemporains. Et là, l'idée de Storia Nostrum, c'est d'adapter la même démarche, mais à des périodes historiques très ancienne, puisque le projet Storia Nostrum essaie de raconter l'existence, la vie des habitants ordinaires de Méditerranée il y a 2500 ans. Et la forme que prend donc ce projet, c'est de fabriquer des podcasts, des courtes histoires sonores, avec un habillage sonore qui est créé par Jack Souvan. Et le but, voilà, c'est d'essayer de retrouver par le bas la vie des gens d'il y a 2500 ans.
Et pourquoi 2500 ans ?
Parce qu'il fallait un point de départ, on a choisi le point de départ des Grecs. Peut-être qu'après ça sera décliné pour les Romains, pour le Moyen-Âge, etc. Non, ce que je voulais préciser par rapport à ce que vient de dire Vincent, c'est que il a parlé du résultat, mais c'est fondé aussi sur une démarche, une collaboration très étroite, donc entre des archéologues ou des historiens de cette période, hein, qui proposent une trame, une histoire, qui est fondée sur une source antique, attestée. Alors, tout type de sources, mais plutôt des sources archéologiques, parce que là, on vise non pas des gens très célèbres, non pas des gens très connus, mais vraiment des gens qui souvent ont laissé très peu de traces, donc plutôt des traces archéologiques. Donc, une première trame fixée par l'historien, l'archéologue, qu'il donne en quelque sorte à un écrivain qui va la retravailler ensuite pour arriver en fait à cette version podcast qui peut être lue ou mise en scène par des comédiens, voire fondée sur aussi des improvisations. Enfin bon, ça tu préciseras, voilà. C'est ce que je voulais rajouter par rapport, il est allé directement au résultat, Vincent, mais c'est fondé sur un travail qui est assez intéressant et qui mélange des gens qui manient l'histoire, la fiction, donc on est toujours entre deux en fait, ce plausible, voilà.
Et qui ferait le tour de la Méditerranée, plus ou moins, enfin les zones accessibles, j'imagine.
Voilà, sur le projet initial, on s'est fixé le but de créer au moins une centaine d'histoires dans des lieux différents des rives de la Méditerranée. Et pour répondre à ta question sur il y a 2500 ans, c'est parce que ça nous semble intéressant avant que justement ce bassin méditerranéen soit unifié, du moins politiquement, sous la domination romaine. Si on se place il y a 2500 ans, c'est pas tant les Grecs que plutôt justement la diversité des peuples, des autochtones, mais aussi des Grecs qui font le lien, parce que justement Il s'installe un peu partout autour de la mer Méditerranée, aussi bien enfin, carrément de l'Espagne jusqu'à la mer Noire. Et donc à partir de là, c'est vrai que les Grecs jouent un rôle, mais on peut très bien penser aux Carthaginois, aux Phéniciens, aux peuples de la mer Noire, aux Celtes qui sont en interaction avec les Grecs. En fait, on veut justement donner à voir, enfin à entendre plutôt cette diversité.
Ouais. Et vous vous donnez combien de temps pour réaliser cet ensemble ou alors pour faire une première étape accessible?
En fait, cette année, ça a été vraiment l'année test, hein, l'année pilote en quelque sorte. Depuis un an, on a testé différents dispositifs parce que qu'un historien ou qu'un archéologue parle avec un écrivain, c'est pas forcément évident, c'est pas forcément facile. Ils ont des démarches et des méthodes peut-être un peu différentes. Donc là, on est content, hein, en un an. En testant au moins 3 ou 4 dispositifs différents, on est arrivé à la production de 6 histoires qui ont été présentées pour la première fois au Musée d'Histoire de Marseille, au Jardin des Vestiges, dans le cadre d'une sieste archéologique. Voilà. Et ces podcasts sont en ligne sur le site. Et voilà. Donc c'était la première restitution officielle après une année qu'on avait décidé pilote. Et là, on passe dans une deuxième phase. Donc là, on est en Albanie pour préciser les choses sur un territoire particulier. Et c'est toujours c'est fondé sur une collaboration entre la ville de Marseille, qui est vraiment le cœur, hein, l'association est localisée à Marseille. Les gens du musée d'Histoire de Marseille sont partenaires, mais vraiment est très engagés depuis le début, en fait. Donc, une collaboration, un échange entre la ville de Marseille et la ville de Tirana. C'est ça qui nous a donné l'idée, en fait, pour cette deuxième phase, plutôt axée sur l'Albanie.
Ouais. Et alors, dans ces histoires, par exemple, il y en a une que vous pouvez évoquer, de quoi elle parle, comment elle est conjuguée à travers l'imaginaire d'un auteur, si je comprends bien. Donc, c'est-à-dire, il y a la matière à laquelle on a accès, dans la mesure du possible, à travers les sciences de l'histoire. Et puis, à partir de là, on la rend vivante, en quelque sorte, vraisemblable, j'imagine, à partir de l'imaginaire d'un auteur ou d'une autrice.
Alors oui, comme on est en Albanie, sur un territoire qui, dans l'Antiquité, s'appelait l'Épire, on a une histoire justement d'un berger grec de cette région d'Épire, porté justement, alors la trame justement nous vient de Marie, puisque c'est une spécialiste de ces territoires-là. Et là, donc, c'est simplement l'histoire d'un berger qui se rend dans un sanctuaire très très célèbre, mais assez peu connu, qui s'appelle le sanctuaire de Dodone. Et s'il est aussi connu par les spécialistes, c'est parce qu'il y a des objets extrêmement précieux pour l'histoire sociale, ce qu'on appelle des lamelles oraculaires. C'est des toutes petites lamelles en plomb de quelques centimètres qui où sont inscrites les questions que posaient des gens très ordinaires à l'oracle, par exemple pour savoir si ils vont se marier avec telle ou telle personne, est-ce que c'est un choix judicieux, si un voyage va bien se dérouler, voilà, des questions vraiment assez importantes qui passaient par là. Donc en fait, Marie a imaginé une trame qui permettait aussi de mettre en valeur quelque chose qui laisse très peu de traces dans l'histoire et dans l'archéologie, c'est le phénomène de transhumance. Et ici, c'est une région, en Albanie, tu l'as vu aussi, où l'élevage des brebis est toujours là, est toujours présent. Et c'est un autre aspect du projet, c'est-à-dire que voilà, on parle d'un berger molosse d'il y a 2500 ans, mais on est aussi confronté à la réalité de la transhumance aujourd'hui, de ce qu'il en reste, des pratiques. Et donc ce que l'on essaie de faire aussi pour chaque histoire, c'est voilà, de faire des ponts entre ce passé-là et le présent, soit d'une activité, soit d'autres éléments.
Ouais. Par exemple, le paysage aussi. Ouais. L'histoire des paysages laisse la possibilité, ouvre la porte à plein de possibilités dont nous a parlé Enrico. Tu étais avec nous il y a quelques jours à Boutrine. On est dans une zone humide, entourée d'une végétation et d'une faune et d'une flore un peu particulière. On la connaît aujourd'hui. Dans l'Antiquité, il y a des spécialistes qui travaillent sur ça, mais c'est aussi, il y a des différences. Donc ça aussi, ça fait partie. Il peut y avoir une histoire autour de paysages. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est vraiment une équipe, hein, c'est un projet collectif, ça on y tient absolument, hein. Avec des allers-retours entre historiens, archéologues ou écrivains, ou le créateur sonore aussi, c'est un travail collectif dans lequel tout le monde est investi.
Oui. Créateur sonore aussi, des points de vue artistiques.
Artistique, mais pas que, parce que c'est pas forcément que de l'illustration, justement. c'est la, pas la recréation d'un son d'antiquité, mais qu'est-ce qui pourrait correspondre à tel ou tel son. Et moi, la première fois que j'ai rencontré Jacques, c'était vraiment très intéressant. Il me posait des questions très, très concrètes des sons d'antiquité, sur lesquels, bon, pour les époques contemporaines ou modernes, il y a tous les travaux de Corbin qui sont vraiment axés sur ça. Pour l'antiquité, on a beaucoup moins ce type d'approche. Et il me dit, bon, sur ton histoire de berger, est-ce que je mets des cloches ? Bah, des cloches dans les musées, il n'y en a pas beaucoup, en fait. Donc, est-ce qu'on met des bêlements partout ? Bah, un mouton, quand il est calme, il n'est pas en train de bêler toute la journée, en fait, il mange, quoi.
Mais ce matin, on a trouvé ensemble deux carcasses de coques, de carapaces, de tortues, après avoir croisé un paquet de tortues dans toutes les positions imaginables. Et justement, vous me disiez que les tortues, les carapaces de tortues servaient à faire les premières lyres, lyra, et ces sortes de petits instruments à cordes qu'on trouve en Grèce notamment.
Oui. Là, pour le coup, on a des attestations dans les musées. Hein, on a beaucoup plus d'instruments de musique fabriqués artisanalement avec des carapaces de tortues ou autres que des cloches, par exemple. Donc, en effet, c'est peut-être plus plausible, parce qu'on est entre vraisemblable et plausible, c'est tout à fait le terme, d'aller vers du côté de la musique, on a peut-être plus d'éléments que, voilà, ou finalement, moi, ma réponse, et puis un terrain commun qu'on a trouvé avec Jacques, c'est de dire, mais surtout quand on est berger, hein, le silence est d'or, donc le silence, la qualité du silence dans l'Antiquité, ou qu'on peut trouver encore des montagnes par ici, ou côté grec, où il n'y a absolument rien, hein, c'est totalement vierge, ça c'est un son intéressant, ou tout ce qui est lié au bruit de la nature. Donc l'eau, l'orage, l'écho dans la montagne, des pas, ouais, les animaux, des pas aussi, quand on marche dans la pierre. Donc ces questionnements étaient très intéressants. Ça, c'est partie de ces allers-retours qui font partie de ce projet collectif et cette démarche collective. Voilà.
Ouais, et puis l'apport du créateur sonore, voilà, c'est vraiment important. C'est justement pas juste mettre des séquences illustratives, mais au contraire essayer de transmettre aussi une émotion. Et dans la narration de l'écrivain, voilà, il part sur des données scientifiques, archéologiques, et qui peuvent être comme ça dans les publications scientifiques assez arides, et l'idée de fictionnaliser, d'inventer un personnage donc qui n'a pas existé, mais on se sert en même temps de noms attestés par exemple de l'époque, là on fictionnalise, donc on espère transmettre à un public large, parce que c'est de l'histoire publique, c'est de l'archéologie publique, on essaie de leur faire ressentir des sensations, des émotions qu'auraient pu avoir des gens il y a 2500 ans, mais des gens, voilà, toujours pareil, très ordinaires. Donc il n'y aura pas de mythologie là-dedans, il n'y aura pas de personnages genre Alexandre le Grand ou Jules César, mais chaque fois pointer la spécificité d'un lieu, d'un site, d'en capter les sons actuels sans pollution sonore, parce que c'est vraiment flagrant quand on se balade dans ces montagnes-là. Tu l'as senti d'ailleurs parfois à certains moments, c'est la qualité d'un silence auquel nous, dans notre civilisation moderne, on n'est presque plus habitués du tout.
Et on parlait de Boutrint, justement, parce que on est en train de faire cet entretien, donc, un 10 septembre, je crois, 2021, en l'occurrence, et à Apollonia, un super site qui a été un lieu religieux, monastère, mais qui est surtout sur les traces d'anciennes cités grecques, romaines, etc. De même que Boutrint, je ne sais pas si l'Albanie a un côté privilégié de ce point de vue, mais c'est fascinant d'histoire et de traces toujours existantes. Alors, par exemple, Boutrint, le nom vient du bovin, du taureau, si j'ai bien compris, et ça, c'est beaucoup de couches d'histoire les unes sur les autres, qui sont aussi illustrés par les pierres qu'on voit, amphithéâtre, etc.
Alors, c'est tout à fait juste. Il y a à la fois beaucoup de couches d'histoire, mais aussi deux sites qui sont très intéressants, parce qu'aussi bien Boutrint qu'Apollonia, après, il n'y a pas eu d'huile moderne dessus. Donc, pour l'archéologie, c'est assez fabuleux. C'est une espèce d'Eldorado, parce que l'archéologie à Marseille, c'est compliqué, parce qu'il y a...
Il y a une ville dessus.
Voilà. Alexandrie, c'est un cauchemar pour les archéologues aussi. À Boutrint comme à Apollonia, c'est des sites qui ont différentes couches ou stratigraphies. Hein. Mais après, il n'y a pas d'huile moderne, il n'y a rien. Là, on est en pleine cambrousse. Et à Boutrint, c'est pareil. D'autant qu'à Boutrint, ça a été zone protégée
Donc au sud de l'Albanie, quasiment en face de Corfou, pas loin, qui elle-même est au nord de la Grèce.
Aujourd'hui, c'est protégé par un parc archéologique, naturel, zone humide, etc. Mais ça a été aussi, comme c'était zone frontalière, ça a été zone militaire pendant très longtemps. Ouais. Ce qui a aussi stoppé en quelque sorte les installations et autres. Voilà.
Voilà, on comprend un peu mieux ce dont il s'agit avec Storie Nostrum, avec Vincent Mespoulet et Marie-Pierre Dos. On continue, là on se trouve à Boutrint, qui est justement le premier endroit que j'ai pu voir en leur compagnie comme site archéologique. Donc après être passé de Marseille à l'île de Corfou, l'île grecque, puis ensuite prendre le bateau pour arriver au sud, dans une ville balnéaire maintenant, hein, Saranda. Donc oui, il y a un peu toutes les traces. L'Albanie n'est pas sortie il y a si longtemps du totalitarisme communiste d'Enverroja. Il y a des traces de ça aussi. Hein. Il y a par exemple des petits blocos ronds par-ci par-là. Il y en avait une multitude, notamment sur les côtes. C'était à l'époque un régime très paranoïaque. Et puis, il y a des traces de toutes les époques. Et il y a évidemment l'époque actuelle, quoi, avec beaucoup de clinquants dans les villes balnéaires. Mais aussi, dès qu'on rentre un peu plus dans le pays, toute une rusticité et une beauté extraordinaire. Alors, pour ce qui est de Boutrint, c'est un super beau site où on prend vraiment un grand plaisir, qu'on prend un grand plaisir à visiter. Et dans lequel on reste encore un petit peu en compagnie de nos deux interviewés. Et Boutrint, alors c'est aussi à l'heure actuelle, c'est un très bel endroit chargé d'histoire et où on voit qu'il commence à y avoir un tourisme intéressé de gens qui veulent mieux connaître à travers ce que disent les pierres finalement. Mais ça a été des carrefours importants comme aujourd'hui Paris-New York ou...
Non. Peut-être pas à ce point, mais en tout cas, c'est clair que... Pourquoi c'est très intéressant de commencer par l'Albanie, c'est que d'abord, c'est un pays qui est assez peu connu ou mal connu, mais surtout dans l'Antiquité. Enfin voilà, il y a une archéologie albanaise qui est extrêmement riche, aussi bien au niveau des sites que dans l'histoire de l'archéologie albanaise elle-même. Et là, on a eu une chance formidable pendant ces 15 jours de cette première préparation des podcasts que l'on va faire avec des histoires donc tirées de ces sites albanais, c'est qu'on a rencontré des archéologues formidables albanais, Lavdoche justement qui nous accueille ici dans la maison de fouilles d'Apollonia, mais aussi la nouvelle directrice de l'Institut archéologique de Tirana qui s'appelle Belissa Mouka, et ça aussi c'est très très bien de voir une femme, c'est rare, il y a beaucoup de femmes qui travaillent en archéologie, mais elles ont rarement des postes de direction. Donc là, on a une nouvelle génération, une jeune génération albanaise qui prend la succession, qui prend le relais. Et Belissa Mouka, qu'on a rencontré une fois à Tirana, une autre fois à Boutrint et à Saranda, la ville balnéaire qui est à côté de ce site, ça représente à mon avis des approches, des problématiques, c'est de la recherche vivante aussi. Tu vois, les équipes italiennes que l'on a vues, qui travaillent sur la capitale d'une région qui s'appelait la Caonie, donc cette capitale s'appelle Foinike, il y a des Italiens qui fouillent. Il y a un archéologue albanais mais qui travaille en Italie qui nous a fait découvrir un site absolument très très particulier qui s'appelle Tchoukai et Aitoit, qui était d'une beauté absolument renversante. Lui, il s'appelle Julian Bogdani, donc un archéologue albanais mais qui travaille en Italie. Voilà, ce qu'on veut essayer de faire aussi, c'est de participer à la valorisation de ce patrimoine archéologique en faisant nos petites histoires comme point d'entrée. Parce que par exemple sur notre site, chaque fois qu'on fait un podcast, on va l'accompagner d'un environnement documentaire pour celles et ceux qui auraient envie quand même d'en savoir un peu plus sur les différentes thématiques que l'on explore dans chaque histoire. Alors là, on t'a donné l'exemple d'un berger, mais on a fait aussi des histoires en Provence évidemment. Et là, par exemple, sur le site d'Olbia, on a planté... Olbia, c'est à près de hier. Tu avais là une colonie de Marseille. Tu vois, Marseille elle-même qui est une colonie de fossés, mais Marseille, elle aussi, a essaimé jusqu'à, à son tour jusqu'à Empúries, quand même, en Catalogne. Donc, il y a comme ça des points, des colonies, enfin, des sites archéologiques. Là aussi, c'est pareil, privilégier des sites qui sont pas spécialement connus. On va pas forcément aller à Delphes, sur l'acropole d'Athènes. Finalement, ce qui nous intéresse, c'est plutôt de montrer, là, l'Albanie, c'est génial pour ça, de montrer des sites d'une richesse extraordinaire, mais voilà, qui sortent un petit peu des sentiers battus. Et donc, à Olbia, près de hier, là, c'est l'histoire d'une vendeuse de rue, qui est en plus boiteuse, handicapée. Voilà, ça, c'est la narration qui va, et la fiction qui va permettre aussi d'incarner ce personnage-là, de donner une petite dramaturgie, et surtout de faire... Voilà, les gens vont dans les musées, ils voient des objets, mais les objets, c'est quand même un peu mort. Hein. Il y a bien une cartouche qu'on peut faire l'effort de lire, mais bon, on le lit, puis on oublie. Tandis que là, avec un personnage qui trimballe une petite histoire, une tranche de vie, quoi. Ce sont vraiment des historiettes, on peut penser que justement, ça peut ancrer aussi plus facilement certains éléments très importants de la civilisation matérielle en prenant des objets ordinaires, mais il faut qu'ils soient manipulés par ce personnage de fiction. Donc c'est un peu la démarche.
Oui, des sites qui ne sont pas forcément très très connus, mais je disais, j'exagérais peut-être en parlant de grandes cités internationales actuelles auxquelles on pourrait les comparer, mais par exemple là où on est aujourd'hui, à Apollonia, donc sur la côte adriatique, juste un petit peu au-dessus de la côte ionienne de l'Albanie, ben c'est par exemple là que César envoyait ses gosses faire ses études.
Oui, voilà. Tu peux avoir aussi des sites très importants, enfin, qui ont sûrement joué un rôle régional extrêmement important, avec notamment pour Boutrine, c'est pareil. Il y a des liens très très larges, quoi, jusqu'à Rome et d'autres écoles de rhétorique qui pouvaient y avoir un petit peu partout, comme à Apollonia. Mais Apollonia, voilà, c'est l'exemple même d'un site qui est pas très connu, mais qui était pourtant énorme. Tu l'as vu, ça fait 90 hectares. On s'est baladé ce matin auprès de la fontaine monumentale, qui est absolument unique et gigantesque.
Donc, le château d'eau, la gestion de l'eau, la gestion municipale des eaux, on pourrait dire.
En gros, c'est ça, c'est tout à fait ça. C'est une citerne monstrueuse avec un tas de bassins pour filtrer l'eau, une sophistication quand même absolument, absolument énorme. Donc là, il faut bien imaginer qu'à Apollonia, effectivement, on a une ville extrêmement importante, pas simplement par sa superficie, mais aussi par son rayonnement. Parce qu'à partir de là, forcément, les contacts avec les peuples autochtones, les peuples voisins, il y a des transferts culturels qui se font, des échanges, et pas forcément uniquement sous la forme agressive, quoi. Donc ça bastonne, hein, mais en même temps, il y a des périodes où de coexistence extrêmement positive pour les deux parties.
Non, je voulais essayer de dire que il faut pas oublier que dans l'Antiquité, bon, il y a plein de raisons de bouger. On bouge beaucoup dans l'Antiquité, hein. C'est vraiment des pays de migration, et on bouge aussi pour la culture, en fait. Et c'est un monde, le monde grec et après les Romains aussi, qui est parsemé de capitales culturelles. Donc Apollonia, ça en fait partie. Marseille, c'était aussi plus tard une capitale culturelle. Athènes, même si elle est moins présente sur l'échiquier politique du 3e siècle, on va dire, avant Jésus-Christ, ça reste une capitale culturelle. Alexandrie, évidemment, c'est celle qu'on a tous en tête pour le 4e et 3e siècle. Il y a Pergame aussi. Il y a comme ça des points de repère, hein, pour les gens qui envoient leurs enfants dans les bonnes écoles, qui, pour Alexandrie, vont visiter les bibliothèques. C'est très important, en fait, cet aspect aussi. Il n'y a pas juste l'aspect où on bouge parce que on fait des échanges, les aspects économiques, en fait. Non, on bouge beaucoup dans l'Antiquité, en fait. Voilà.
Et en plus, c'est une... parce que là, on pourrait penser que ça ne concerne qu'une partie de la population, mais non, c'est-à-dire que même notre berger Molos, notre berger des montagnes, est influencé, parce qu'il ne faut pas les prendre pour des sortes de sauvages. C'est pas du tout de l'histoire immobile. Ça nous sert aussi à casser des représentations sur l'Antiquité qui ont vécu depuis le 19e siècle, mais là il y a matière, grâce à ces petites fictions, de réorienter un petit peu et de faire voir la recherche vivante, celle qui aujourd'hui justement permet de nuancer certains points de vue qui sont un petit peu dépassés maintenant.
Ouais. À propos de Molos, on sait pourquoi ce mot a tellement voyagé dans l'imaginaire, puisque finalement tu parles de Molos qui a l'air d'être un berger comme on peut croiser des bergers aujourd'hui avec tout ce que ça signifie comme savoir-faire, comme relation à la nature et aux animaux. Mais molosse, quand on emploie le terme le plus vulgairement aujourd'hui, c'est plutôt un chien agressif, un gros chien agressif, alors on voit pas le rapport. Hein.
Oi molossoi, donc ce peuple des molosses, c'est que justement il y a ce chien, le chien molosse, le molosse vient de ces montagnes. Et donc le nom molosse qui a été réutilisé par rapport uniquement à ce chien un peu agressif, a fait désigner dans l'Antiquité le nom de ce peuple qui lui-même était fédéré avec d'autres peuples voisins, les Caones, puisqu'on était à Boutrint. Là, c'était les Caotes, et puis un peu plus au sud, sur la côte grecque, tu as les Thesprotes, et ces trois peuples, en fait, se sont retrouvés fréquemment dans l'histoire, pas systématiquement. Parfois, il y a des désunions, des réunions, mais en tout cas, voilà aussi un autre aspect intéressant. Lorsque les gens pensent aux Grecs, ils pensent à la cité, à Athènes, à Sparte. Mais en fait, beaucoup de lieux fonctionnaient selon des modes politiques extrêmement différents, et là, cette région, surtout dans le nord de la Grèce, que ce soit en Macédoine, donc dans le nord-est, ou en Épire, dans le nord-ouest de la Grèce, des régions un peu périphériques, où même les Grecs des cités, donc Athènes, Sparte, pensaient que c'était des à moitié barbares. Mais non, en fait, ce sont des gens qui sont de culture grecque entièrement, quoi, qui participent aux jeux olympiques, aux jeux delphiques, aux jeux pythiques, enfin à tous les jeux qui
rassemblent. J'allais dire internationaux, mais.
On dit panhellénique à l'époque.
Panhellénique.
C'est aussi simple que ça, de tous les Grecs.
Donc ils font partie des Grecs.
Ouais. Justement, Marie-Pierre Dos, ça rejoint ta spécialité par ailleurs comme universitaire. Ouais. En plus du projet particulier de Storie Nostrum, c'est-à-dire, si j'ai bien retenu, l'étude des, je sais pas si on dit civilisations, fédérations de peuples, organisations humaines contemporaines des démocraties athéniennes que l'on connaît, ou en tout cas que l'on croit connaître, en tout cas que l'on étudie beaucoup. Mais en fait, à cette période-là, il y a ces peuples qu'on a évoqués là qui sont moins connus, et c'est un enjeu actuel que d'en découvrir plus. Alors,
pour l'Antiquité, il y a deux cadres de vie. Alors, c'est une boîte qui est à la fois économique, politique, sociale, la cité et l'ethnos, ou ces fédérations de peuples, pour faire simple en fait. La cité est quand même bien connue, il y a beaucoup de sources, bon, Athènes, l'Asie mineure, et c'est tout ce qu'on lit dans les livres d'histoire, les manuels, ou même à l'école, on n'étudie que ça. Mais il y a un autre cas de vie, qui, la cité n'est pas du tout prépondérante, c'est à peu près moitié-moitié la répartition, mais qui est beaucoup moins connue, parce qu'on n'a pas eu aussi Thucydide ou quelqu'un qui a fait l'histoire de ces cités. On a énormément d'inscriptions, d'archéologie, mais beaucoup moins de sources. Donc c'est petit à petit qu'à quelques-uns, on n'est pas beaucoup hein, quand même à travailler sur ces régions, alors qu'il y a énormément de choses à faire. On a rencontré les équipes italiennes qui sont extraordinaires sur le terrain, on se connaît tous, hein, tu l'as vu. Donc il y a les Albanais, il y a les Grecs, il y a les Italiens, il y a les Anglais, enfin un certain nombre de gens, mais on se retrouve tous parce
que figures françaises connues aussi.
Il y a Pierre Cabanne qui a été mon directeur de thèse, qui a été le directeur aussi de François Quentin, donc tous les deux on continue de travailler sur ces régions. On a la chance d'avoir un poste en France, mais en France on est les deux seuls hein, aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'on se connaît tous d'un point de vue international, parce que il y a des colloques où on se rencontre et où on échange et on discute et c'est très bien. Mais donc, deux cadres de vie, un qui est beaucoup plus connu que l'autre, et l'autre qui est quand même très original, enfin une véritable souplesse. Alors, fédération, confédération, nous on préfère en tant que spécialiste utiliser le terme grec, l'ethnos, le peuple, qui forme, qui se rassemble ces différents peuples en ethnos, en koinon, pardon. Donc koinon, c'est ce qu'on met en commun, hein, qui éventuellement fait un état fédéral. Donc c'est un système complètement pyramidal qui laisse la porte ouverte à tous les petits nouveaux venus, si on frappe à la porte parce que finalement on préfère rejoindre le koinon des épirotes parce qu'ils sont forts à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Les charges tournent aussi, donc un fonctionnement étatique qui est complètement différent. Alors d'un point de vue contemporain, c'est aussi assez rigolo, c'est pour rebondir sur la question originelle. C'est que c'est assez symptomatique. Par exemple, il y a beaucoup d'Italiens qui traversent cette question. Il y a beaucoup de Suisses. Il y a des Suisses aussi. Parce que j'ai l'impression, moi, c'est une impression, hein, que les confédérations, c'est quelque chose d'un point de vue contemporain qu'ils maîtrisent beaucoup plus qu'en France. Où... Non, c'est intéressant. Tu vois, les
dans un pays centralisé, à la culture centralisée depuis une éternité.
Exactement.
Et là, tu disais, à propos des fédérations de peuples, un système complètement pyramidal. Tu voulais dire fédéral ou pyramidal en quelle sorte?
Alors, au sommet, il y a l'État. Bon, par exemple... Alors après le roi, non, le roi n'est pas au sommet, il est un peu à part en fait, parce que quelquefois il y a des rois aussi, hein. Mais c'est pas, bon, il mène la guerre, il mène les troupes, il les rassemble, etc. Il prend certaines décisions, mais toujours en commun avec le colonel. Après en Épire, il disparaît en 232 avant Jésus-Christ. En Macédoine, c'est un peu différent, mais peu importe. Il y a le roi, on va faire simple. Non, il y a l'État épirote, le koinon des épirotes, qui est constitué, alors on va dire en haut là pour le coup, par différentes branches après, donc un koinon des molos, des tesprotes, des kaons, des grandes entités, koinon ou ethnos, et puis après, chez les molos par exemple, il y a 12 peuples principaux, donc là on fait encore des branches, hein. On connaît les noms, mais sur une carte on est incapable de les replacer, et ces petits ethnés, bah, c'est le rassemblement de différents villages. C'est pour ça que je vous dis un schéma pyramidal dans ce sens.
Pas dans un sens hiérarchique, mais dans un sens où il y a des subdivisions et que chaque subdivision est représentée.
Territoriale. En revanche, l'organisation politique, chacun a sa voix en fait. Chacun a ses représentants et il se rassemble dans des assemblées qui rassemblent tous ces gens en fait.
Ouais. Avec aussi une sélection comme les démocraties athéniennes, c'est-à-dire il y a ceux qui ont le droit de vote, droit d'expression, etc. Et puis les femmes, les esclaves qui ont des statuts différents ou...
Alors, bon, les femmes, a priori, hein, compte tenu des sources, hein, vraiment, qui sont très rares, ne participent pas à la vie politique. Ça, c'est peut-être le seul point commun. Mais par exemple, si on parle des femmes, en dehors de la sphère politique ou étatique, elles ont des vraies responsabilités et une vraie personnalité juridique, puisque là, pour le coup, on a des inscriptions qui sont des actes d'affranchissement. Donc, une maîtresse de maison qui a 5 esclaves décide elle-même, sans l'accord de son père, de son mari, en toute indépendance, on va dire, d'affranchir des esclaves. Et ça, on a des inscriptions qui attestent de ça, avec des noms de ça.
À Boutrint, quand on arrive au bord du théâtre, des inscriptions qui sont toujours là aujourd'hui.
Elles sont toujours là, elles étaient là dans l'Antiquité aussi, pour que tout le monde les voit, en fait. Donc tout le monde les voit. Bon, évidemment, aujourd'hui, il faut ouvrir grand ses yeux, mais c'est une source extrêmement intéressante et qui réévalue la place de la femme dans le monde grec, qui dit, mais attendez, la situation de la femme à Athènes est complètement pas atypique, mais assez particulière.
Et très restrictive
aussi. Et très restrictive, en fait.
Voilà, toujours avec Marie-Pierre Doss et Vincent Mespoulet à la Maison des Fouilles à Polonia, à un moment de septembre 2021, en train de deviser sur 2500 ans avant Jésus-Christ. Eh bien, là, on comprend un peu la différence entre cité qui est bien plus connue pour l'instant dans nos cultures, dans notre enseignement, que tout ce qui est de l'ordre de l'ethnos, dont une grande partie reste encore à découvrir, ce à quoi s'activent beaucoup d'archéologues qui viennent de différents endroits. On en a notamment croisé des Italiens et aussi des Albanais, bien sûr, des gens qui viennent de différents pays, des Allemands et peu de Français, mais voilà, les Français ont aussi leur part dans cette histoire en renouvellement.
Et c'est ça, parce que là aussi c'est un schéma que l'on a dans la tête, on pense que les femmes grecques étaient dans des sortes de gynécées à l'intérieur de la maison, strictement séparées de la vie masculine, etc.
Sous tutelle la vie en fait.
Et en plus complètement, d'abord sous tutelle paternelle, puis ensuite sous tutelle conjugale, quoi. Alors que là, il semble bien que dans ces régions-là, par exemple, ça fonctionne tout à fait différemment. Voilà, c'est le genre de nuance qui nous intéresse de mettre en valeur à travers cet examen global sur le bassin méditerranéen. Et là, on ne touche qu'à une partie, puisqu'on est chez les Grecs, mais bon, chez les Carthaginois, ça se passait évidemment différemment. chez les Phéniciens aussi, au bord de la mer Noire, ce sont des peuples, là, pour le coup, que les Grecs considéraient comme barbares, mais qui sont en interaction permanente avec les Grecs, par exemple, les Thraces, les Scythes. Donc on va essayer de donner à voir toute cette géographie et cette mosaïque de peuples.
Cette diversité, évidemment, il y a des points communs dans tout ça, il y a l'hellénisation aussi qui fait, ou plus tard la romanisation, mais il y a une extrême diversité, en fait.
Ouais. Et ce qui les définit aussi dans leur vie quotidienne, donc c'est à travers leurs activités d'élevage, de poterie, ce genre de choses, ça, vous avez aussi pas mal tracé ça.
Oui, enfin, notre but, on ne va pas raconter que des histoires de bergers, parce que on est évidemment esclave des artefacts, des objets archéologiques. Alors, donc, forcément, la céramique prend une amplitude énorme, parce qu'évidemment, ça reste à travers le temps. Mais imagine tout ce qu'il peut y avoir avec le bois, des choses qui ont disparu. Et là, il faut réussir à restituer aussi cette partie qui était fondamentale. Tu vois, les bergers, ils font des cabanes, ils ne laissent pas de traces. Les villages, ils n'étaient sûrement pas en dur, comme les villes ou les cités. Et donc, à partir de là, c'est l'archéologie, justement, qui nous donne les billes nécessaires pour réussir à ressentir un petit peu quel était cet environnement matériel dans lequel évoluaient ces gens.
Avec des matériaux pour ce qui est des constructions qui sont très impressionnants, parce que ça, on se dit qu'ils vont peut-être survivre à des tas de constructions contemporaines alors qu'ils sont là depuis des siècles déjà.
Oui, justement sur le site de Tchouka qu'on a visité avec Julian Bogdani, on a vu aussi une ferme fortifiée hellénistique, donc du 4e et 3e siècle, où il te reste encore 6 mètres, 7 mètres d'élévation avec des blocs, tu les as vus ici, des blocs absolument énormes, quoi. Enfin, et ça, évidemment, ça pose la question de la manière dont on gérait la construction, par exemple, d'une énorme fortification qui entourait une ville comme Apollonia. Donc ça suppose qu'il y ait des sources d'approvisionnement en pierre, une armée de tailleurs de pierre, donc se poser la question de comment fabriquer tout ça. Voilà, des choses très très concrètes, et c'est pour ça que ton regard un petit peu de candide de néophyte, pour nous c'est très précieux aussi, parce que justement c'est toi qui poses les bonnes questions, et c'est aux archéologues d'essayer d'y répondre, mais sur des choses très banales, très quotidiennes, comme quand tu t'es demandé, tu vois, à la photo monumentale, mais est-ce qu'ils avaient des robinets, tu vois. Ça, c'est très très bien comme question, parce qu'en fait, voilà, comment transporter l'eau, qu'est-ce que c'est que cette question de l'eau qui est fondamentale, comment c'est géré dans une ville, dans un village, les puits, les citernes, les caniveaux, tous ces trucs là qui font, c'est le décor, le décor.
D'autant que je pensais que c'était déjà rebattu comme science en quelque sorte, même si y a des passions dans toutes les sciences et qu'on trouve toujours des choses, soit de nouvelles manières de voir, soit des détails. Mais il n'y a pas que des détails et de nouvelles manières de voir en jeu, mais carrément des découvertes. Parce que en fait, au fil des siècles, finalement, si on prend l'archéologie albanaise par exemple, on voit que il faut attendre le XXe siècle, et encore de manière orientée, c'est-à-dire par les intérêts politiques de Mussolini, pour qu'il y ait un ethnologue qui visiblement est une pointure, qui est un ethnologue qui incarne une école italien, débarque dans les années 30 et j'imagine joue avec la marge de manœuvre dont il peut jouer. Mais voilà, c'est quand même le XXe siècle, alors que ça fait déjà 2000 ans que ça dure. C'est-à-dire que finalement, c'est assez récent, quelque part, la découverte de ce vieux passé.
Oui, on parle de redécouverte, en fait. Hein. Les premiers qui redécouvrent, en fait, l'Antiquité, c'est le 19e siècle. Et c'est pas en fouillant, enfin, quelquefois ils fouillaient, mais c'est en voyageant. C'est les voyageurs. Alors, dans ces régions, par exemple, il y a Pouville, le français, il y a Lick, l'anglais. Cette région, je parle de l'Épire antique, en fait, qui ont laissé des carnets de voyage. Et qui sont très intéressants. Hein. On fonde aussi nos recherches sur ça, sur des archives aussi qui sont restées quelquefois inédites. On en parlait avec Juliane. Donc on traîne dans toutes les archives pour avoir certaines informations. Ils ont leur vision, le contexte de l'époque, etc. Mais c'est des gens curieux, curieux de tout en fait. D'ethnologie, d'archéologie, de diplomatie quelquefois, que certains sont diplomates. C'est au 19e, c'est ce qu'on appelle la redécouverte de l'Antiquité.
Oui, et puis ça faisait partie vraiment, c'est l'époque un peu du pré-romantisme et du romantisme. Au début du 19e siècle, voilà, c'est la tradition qui s'installe du grand voyage en Grèce, alors Lord Byron ici, il a laissé des traces énormes, ou alors, tu vois, Gérard de Nerval qui fait son voyage en Orient. Et donc, à partir de là, évidemment, il tombe sur des ruines. Et donc, tu as toute l'esthétique des ruines qui apparaît dans le discours littéraire de l'époque. Et puis, petit à petit, à partir du milieu du 19e siècle, l'archéologie se constitue petit à petit en science, avec l'âge du positivisme, etc. Et c'est... Voilà, et les premières fouilles archéologiques méthodiques, même si évidemment aujourd'hui on a énormément changé de méthode, ça se passe à ce moment-là, quoi. Et donc en fait, l'archéologie est une science constituée assez récente. Et qui l'histoire de l'archéologie, et là l'Albanie est un exemple parfait, puisque tu as cité ce grand archéologue italien qui, pendant la période du fascisme, puisque l'Albanie avait été annexée par l'Italie, donc un monsieur qui s'appelait Ugolini, qui a fait énormément évidemment pour déclencher justement cette archéologie albanaise. Après, il y a la période communiste, alors là tu as une autre strate qui apparaît.
Mais à la même époque, on est apollonien, il y avait Léon Ré, le français. Hein, donc, bon, voilà, il y a eu les voyageurs du 19e, ces gens qui ont vraiment, là, ils ont pris la pioche, hein, ils ont commencé à fouiller. Ugolini, Léon Ré pour Boutrine, et le sud, on va dire, de l'Albanie actuelle, Léon Ré apollonien.
Voilà, ce Léon Ré, c'est très intéressant, parce que là, c'est justement lié au conflit mondial, la Première Guerre mondiale. Parce qu'il faut imaginer qu'il y a une armée d'Orient. Dans cette armée d'Orient, il y a des services, évidemment, enfin, il y a l'armée, il y a les conflits, mais il y a aussi des services scientifiques qui sont présents, qui fouillent, et lui, il est à Thessalonique pendant le premier conflit mondial, quoi. Et puis ensuite, non, je confonds avec Eusée, peut-être.
Non, mais c'est pas grave.
C'est pas grave, enfin, on va pas rentrer dans les détails.
C'est très cool. Encore ce matin, parce qu'on est à Polonia, j'en sortais des Hongrais, c'est vraiment une figure ici. Mais c'est aussi une manière de faire de l'archéologie. Là, au premier tiers du XXe siècle, on commence à avoir des photos. Il y a une photo fabuleuse de Léon Ré, avec la tante de Monsieur Léon Ré, la tante des domestiques à côté. Hein. Et il y a une autre tante de je sais plus quoi, je montrerai la photo qui est mais extra. Enfin, voilà. C'est comme ça aussi, dans les années 1920, quand on faisait de l'archéologie, Ugolini, il y a des photos de lui sur les murailles, il prend la pose.
Donc tu vois, on peut en même temps développer toute une histoire de l'archéologie à travers les générations.
Et des archéologues.
Et des archéologues, évidemment. Ouais. Parce que là, tu vois, on a parlé de cette période des années 20, 30. Mais ensuite, ici en Albanie, qui est un pays quand même relativement atypique, où il y a donc la dictature d'Enver Hoxha qui s'installe. Et donc là, tu as l'école soviétique qui intervient. Ouais. Puis tu as la figure, donc en tout cas pour les Français, parce que c'est très important vu qu'on est à Polonia, de Pierre Cabanne, qui a dirigé la thèse donc de Marie-Pierre, par exemple, qui est vraiment celui qui a, en pleine période communiste, voilà, c'est un des rares scientifiques français, archéologues, à pouvoir rentrer en Albanie. Enfin, c'est assez extraordinaire.
Il y a toujours eu une archéologie albanaise, hein, qui est on est à Polonia. Le premier, c'est Hassan Seka, l'Albanais. Il y a eu Neritan Seka, son fils, qui est toujours vivant. Maintenant, il y a la petite fille, Olgika Seka. Il y a des générations entières d'archéologues albanais.
Il y a des dynasties aussi d'archéologues qui sont très intéressantes à observer, mais avec un boulot excellent. Enfin, moi, je suis toujours stupéfait de voir comment, avec si peu de moyens, les Albanais réussissent justement à trouver des approches, des problématiques qui sont ultra pointues.
La fontaine de ce matin, la fontaine monumentale, ça a été dégagé dans les années 60 par les archéologues albanais. Voilà.
Il y a, à propos des périodes, des carambolages de périodes, on pourrait dire, un endroit où on se trouvait hier, par exemple, où on voit des traces à la fois contemporaines par les panneaux touristiques, mais aussi du temps du communisme très très dur, hein, au moment surtout exacerbé où l'Albanie était complètement isolée sous Enver Hoxha, avec un reste de bâtiment où c'est marqué vive le voilà gloire au président Mao et au parti communiste maoïste. Et puis des traces d'Ali Pacha, qui a été une figure extraordinaire, qui a marqué aussi, qui a dirigé cette région de l'Épire pendant une période au 19e siècle, en étant dans le cadre comme un pacha de l'Empire ottoman, mais aussi en se heurtant à ce même empire pour des velléités d'indépendance. Oui. Et donc il y a des traces de tout ça au même endroit.
Ouais, on est à Porto Palermo, en fait, vraiment en sud, sur la côte qu'on appelle la Riviera albanaise, hein, par facilité, qui est très belle. Pour moi, Porto Palermo, c'est un concentré de cette histoire de l'Albanie. Donc c'est en effet toutes ces résonances qui se mélangent à cet endroit.
Et du coup, on pourrait imaginer, dans le cadre, par exemple, de votre concept Storie Nostrum, qu'un personnage qui est de la famille, qui est une espèce de saga où, finalement, une famille sur place voyage à travers les régimes et le temps en étant un jour... un émissaire d'Ali Pacha, et puis à travers les gens, sa petite fille, une commissaire du peuple de Enver Hoxha. Mais tout ce monde-là descendant d'une famille de l'Épire qui a résisté aux Romains.
Enfin. Là, ça serait quand même une super saga sur 2 billets d'années, ou 2500 ans, ça serait quand même alors un ouvrage en 50 tomes, il faudrait beaucoup d'imagination, mais tu vois, ce qui est intéressant sur ce côté diachronique, c'est-à-dire transhistorique, où les périodes s'entrechoquent, il y a un très beau projet qui est porté sur ce que je te racontais, tu vois, sur le bitume. C'est-à-dire que là, il y a une approche pluridisciplinaire avec des ethnologues, des archéologues, des géographes, des géologues qui essaient de voir comment cette matière, le bitume en fait, qui est déjà très important dans l'Antiquité parce que par exemple, tu vois, ça permet de calfater les navires autour de la mer Méditerranée.
On est bien avant le bitume de l'Arabie Saoudite qui inonde le XXe siècle.
Voilà, il y a 2500 ans avant Jésus-Christ. Voilà.
Et donc en Albanie, dans l'Antiquité, il y avait du bitume qui affleurait. Et c'est très important parce que ça avait un rôle aussi dans la vie religieuse. Et dans ce projet, notamment, ils sont à la recherche de ce qui s'appelle un nymphaon, où il y avait un culte visiblement de nymphes liées au feu, lié au bitume, et ici, tu vois, d'ici d'Apollonia, en fait, on pouvait voir ce temple, mais on ne sait pas où il est, ce temple. Ouais. Et donc, là, les archéologues ont monté un projet pour, entre autres, voir ça, mais aussi, ils vont s'intéresser aux mines de bitume ou d'hydrocarbures qui sont développées, là, c'est un champ pétrolifère qui n'est pas très loin, nous, on l'a vu il y a 7 ou 8 ans, c'était vraiment dingue, parce que c'était extrêmement pollué, c'était des vieux dériques de l'époque chinoise, et donc là, tu vois, là, par exemple, tu vois, c'est plutôt, tu vois, dans ce sens-là qu'on essaie de faire des télescopages entre le passé et le présent, c'est que sur le même lieu, des activités ont pu être portées de façon différente, plutôt que, tu vois, une sorte de généalogie familiale qui serait super, super chouette, mais un peu compliqué à organiser.
On va s'arrêter là pour l'instant. Ouais. Marie-Pierre Doss, donc, et Vincent Mespoulet. Merci pour tous ces éclaircissements et tout ce voyage à travers votre projet, votre concept, Storie Nostrum. Ah, peut-être une dernière question qui me vient, c'est que c'est plus sur le nord de la Méditerranée, en fait, que sur... est-ce que ça va concerner aussi les pays maghrébins, arabes?
Oui, bien sûr. Enfin, là, on...
Les pays où on peut aller, en fait, et trouver des archéologues qui peuvent travailler.
Et oui, parce que, par exemple, la Libye, il y a un amphithéâtre que le monde entier voudrait lui piquer.
Voilà, il y avait des colonies grecques aussi, par exemple, en Libye. Mais bien sûr qu'on ne va surtout pas s'interdire d'aller dans le Maghreb ou vers le Machrek. Enfin, vraiment, même la zone, tu vois, de Palestine, du Liban, mais c'est énorme. Enfin, il y a des sites, mais qui ne concernent pas les Grecs, mais tu vois, plutôt les Phéniciens. Mais alors, Tunisie, Carthaginois, tu vois, là aussi, c'est la même période. Tu vois, c'est avant que les Romains mettent la main sur l'ensemble du bassin méditerranéen. C'est pour ça qu'on a choisi il y a 2500 ans, tu vois. C'est parce que là,
juste avant que les Romains ne bouclent la mer.
Voilà.
Uniformise. Merci, à bientôt. Entretien bien éclairant, donc, à travers l'histoire et la Méditerranée, avec Vincent Mespoulet et Marie-Pierre Doss, appelés sans doute à d'autres entretiens par la suite, dans cette idée de Storie Nostrum, donc qui aura évidemment toute une suite de rebondissements au bord de la Méditerranée. Storie Nostrum, qui peut être un peu complémentaire d'ailleurs d'une émission qui se pratique déjà, Mare Nostrum, sur les ondes de Radio Zinzine, et qui a aussi des échos qui peuvent recouper ce qu'on vient d'entendre.
et qui était illustré musicalement d'ailleurs, qu'on entend à l'instant par le groupe Seis Iso, qui reprend des airs traditionnels de tout le sud albanais, donc qui correspond à la zone à laquelle on s'intéressait, les Pires. Et en fait, cet album qui accompagnait musicalement cet entretien, on le doit à une productrice albanaise que j'ai croisée quand on se trouvait à Girocastro. Girocastro, alors vraiment une cité magnifique d'histoire qui est surmontée par un château, bon, un château de musée de la guerre, qui n'est pas ce qui est le plus intéressant, mais qui est aussi une construction qui va continuer de traverser les siècles. Et cette petite ville, Girocastro, est elle-même très pentue avec des calades et des maisons historiques magnifiques. C'est aussi le lieu donc d'Ali Pacha qu'on a évoqué, et aussi d'Enver Hoxha, qui était donc le chef de l'Albanie communiste, et aussi d'Ismaël Kadare, le fameux écrivain Girocastro. Et c'est là que j'ai croisé Edith Poula, qui est coproductrice de cet album qu'on est en train d'entendre, avec Joe Boyd, qui est cet Américain qui a énormément œuvré à la promotion de la musique aux États-Unis, en étant par exemple producteur de premier single des Pink Floyd. Et donc c'est la rencontre des deux qui, ces dernières années, a permis aussi un renouveau de la musique traditionnelle albanaise, qui n'est pas que, comme chez nous, souvent confinée à l'intérêt de ceux qui ont un penchant pour le traditionnel, mais qui parle à toutes les générations. Par exemple, on se trouvait à une soirée où il y avait des jeunes étudiants qui fêtaient l'anniversaire de l'une d'entre elles en dansant sur des airs traditionnels venus du Kosovo. Ça, c'est vraiment sympa parce que ça reste populaire et éclectique, finalement, les goûts musicaux de gens qui peuvent écouter cette même musique aussi bien que du rap albanais qui commence à exister d'ailleurs. Et en l'occurrence, donc, cet album s'appelle At Least Wave Your Handkerchief at Me. C'est une chanson d'amour, évidemment, le premier amour. Ben voilà, si tu ressens la même chose que moi, agite ton mouchoir. Et donc, on le doit à ce groupe Seis Iso, Seis, groupe du sud de l'Albanie. Et c'est avec ce groupe qu'on va se quitter. Encore merci à Vincent et à Marie-Pierre, et à bientôt.